Bonjour à tous. Et si c'était lui, l'homme le plus influent de France? Depuis plusieurs années, l'industriel Vincent Bolloré construit un empire médiatique qui mêle télé, presse écrite, édition et jeux vidéo. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Le 17 février, il va passer la main à ses enfants, mais son pôle média, lui, va continuer de s'agrandir. Vous allez donc nous expliquer en quoi il consiste. Et puis nous recevrons Antoine Isambard. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez Trahison à la DGSE, un livre qui revient sur le parcours des deux ex-agents français qui avaient livré des secrets d'État à la Chine.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. Et vous avez vu d'ailleurs, si c'était politique, le segment de l'information pour nous est un segment absolument insignifiant. Nous sommes minuscules.
Voilà, ça c'était Vincent Bolloré le 19 janvier dernier qui s'exprimait devant les sénateurs de la commission qui enquête actuellement sur la concentration des médias. Il se défend alors d'avoir un projet politique et il rappelle qu'il n'est qu'un nain face aux géants que sont Netflix, Apple ou Amazon. Alors on va voir ce qu'il en est vraiment, mais avant cela, Anne-Laure Barral, quand on parle de l'empire médiatique de Bolloré, on parle de quoi précisément?
Eh bien aujourd'hui, Vincent Bolloré, c'est de la culture, comme du cinéma avec Canal+, des livres avec Editis, des jeux vidéo avec Gameloft, des salles de spectacle comme l'Olympia, de la communication avec l'agence Havas, l'institut de sondage CSA, la plateforme Dailymotion, et bien sûr des médias, CNews, C8, une vingtaine de magazines comme Capital ou Ça m'intéresse, et bientôt en plus d'autres médias du groupe Lagardère.
Ouais, ce qui fait effectivement beaucoup. Et pourtant à l'origine, Vincent Bolloré n'avait pas grand-chose à voir avec le milieu des médias.
C'est vrai, hein, l'histoire professionnelle de Vincent Bolloré, elle commence plutôt dans la finance. Et quand il a sauvé les papeteries qui appartenaient à sa famille en Bretagne, comme il l'a rappelé devant les sénateurs le 19 janvier dernier.
J'ai passé 10 ans dans la banque en terminant un DESS de droit. Et puis j'ai été appelé à passer 40 ans dans une entreprise industrielle fondée par ma famille près de Quimper. En effet, je suis né dans une grande ancienne famille bretonne et l'entreprise qu'elle dirigeait était tombée en difficulté. J'ai donc été appelé à quitter la banque pour m'atteler au redressement et au développement de cette entreprise. Quand je suis arrivé, elle faisait 20 millions de chiffre d'affaires. Elle en fait aujourd'hui 20 milliards. Elle employait un peu moins de 800 personnes. Et nous sommes un peu plus de 80 000 personnes aujourd'hui dans le groupe.
Ah oui, 80 000 personnes, ça commence à faire du monde. Et comment il a fait pour construire un tel empire?
Alors d'abord, il a racheté en 1981, pour 2 chèques d'1 franc, les papeteries Bolloré, qui produisaient alors le papier pour les Bibles et le fameux papier à cigarettes OCB. Mais elles étaient en faillite. Vincent Bolloré, grâce à ses contacts dans les banques, arrive rapidement à redresser la barre.
Et ce qu'il fait avec OCB, il va le faire avec d'autres entreprises.
Que ce soit dans l'emballage, les transports, la logistique, les batteries ou la communication, il utilise un peu toujours la même tactique, comme l'explique Loïc Dessin, responsable des questions de gouvernance dans le cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest.
Vincent Bolloré a pris l'habitude parfois de prendre des tickets minoritaires, parfois sans être invité au capital. Il l'avait fait un peu chez Bouygues, chez Havas, où là, finalement, après, il a pris le contrôle. Et après, aussi chez Ubisoft. Et finalement, quand Vivendi a décidé de jeter l'éponge, en se disant là, je vais rester minoritaire, et ils veulent même pas que je rentre dans le conseil d'administration, ils ont donc cédé leur titre, mais en faisant une plus-value de 1,2 milliard. Et ça arrive très souvent, en fait, avec Vincent Bolloré. Donc, quand finalement il ne prend pas le contrôle, il arrive très souvent à faire de bons coups financiers, vu qu'il sort avec des plus-values.
Ah oui, donc soit il fait de l'argent, soit il prend le pouvoir. Et quand il le prend, ce pouvoir, d'ailleurs, parfois il ne fait pas dans la dentelle.
Et on le voit très bien lorsqu'il a mis la main sur Canal+, en 2015. En une journée, il va renvoyer une trentaine de cadres et installer l'équipe avec laquelle il travaille toujours aujourd'hui. Il explique alors que la haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur. D'ailleurs, c'est ce qu'a constaté le journaliste Raphaël Garrigos pour son enquête sur l'empire de Vincent Bolloré.
Nous qui avons déjà par exemple travaillé sur TF1 du temps d'Étienne Moujat et Patrick Lelay, on n'a jamais connu une telle frayeur. Nous, on a reçu des gens dans cette pièce qui ont mis leur téléphone au congélateur avant d'entrer dans la pièce. Et puis, on ne parle avec eux qu'avec des messageries cryptées ou d'autres téléphones. Et on n'a jamais connu une telle parano, mais une parano souvent justifiée. Ouais.
Une parano souvent justifiée, selon lui. Maintenant, il y a une autre crainte qui s'exprime dans les rédactions, Anne-Laure, c'est celle de voir le grand patron intervenir dans les choix éditoriaux.
Oui, parce qu'il y a eu des précédents. Et c'est par exemple ce qu'a raconté Céline Pigalle, l'ex-patronne d'Itélé, lors de son audition au Sénat.
Moi, j'ai reçu une fois, dans le groupe que j'ai ensuite quitté, une demande formelle pour traiter un sujet qui, de mon point de vue, n'avait aucun sens sur l'antenne d'Itélé. Dans la période où je travaillais à Itélé, sur la toute fin de mon parcours, il m'était demandé de rendre compte des activités, des salles de spectacles type Olympia qui devaient se développer en Afrique. C'est vrai que ça ne me paraissait pas être directement le sujet de mon antenne. Voilà.
Alors, je rappelle que ces salles type Olympia appartiennent à Vincent Bolloré. Mmh. Céline Pigalle a bien tenté de résister, mais elle a été aussi renvoyée en 2015.
Et depuis cette époque, les méthodes n'ont pas changé ?
Eh bien, des gens virés parce qu'ils ne plaisent pas au patron, c'est encore arrivé l'an dernier à Canal+, avec l'humoriste Sébastien Thoen. Et il n'a pas été le seul concerné, comme le raconte la journaliste Isabelle Roberts, cofondatrice du site lesjours.fr.
Regardez ce qui s'est passé avec le service des sports en 2021. Quand même, il y a eu une espèce de réaction en chaîne. Sébastien Thoen est viré, puis Stéphane Guy, commentateur vedette, est viré. Et ensuite, à la suite de ça, les gens de la rédaction des sports signent une pétition. Et en gros, tous ceux qui ont signé la pétition sont virés les uns après les autres.
Bon, et Vincent Bolloré, lui, il assume ce reproche qu'on lui fait de couper des têtes ?
Alors pas vraiment, même s'il a encore un rôle de censeur et de conseiller au sein du conseil de surveillance du groupe Vivendi, devant les sénateurs, il a plutôt minimisé son poids dans les décisions des chaînes.
Je peux proposer, je peux donner mon avis, je peux dire « ne pensez-vous pas que ?» et si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Donc ma capacité personnelle à aller imposer des choses est pas très importante, contrairement à ce que vous pensez.
Ouais, donc lui relativise son pouvoir. Maintenant, il y a une autre méthode qui est assez caractéristique du personnage, Anne-Laure. C'est un recours plutôt intensif, on dira, aux avocats.
Et Tristan Walex en sait quelque chose. Le journaliste de complément d'enquête a été poursuivi par Vincent Bolloré pour son documentaire « Vincent, un ami qui vous veut du bien ». Et il s'est alors rendu compte qu'il n'était pas le seul à faire l'objet de procès.
Moi, quand j'ai été attaqué, à l'époque, j'avais fait une petite recherche autour de moi pour essayer de savoir qui avait été traîné en justice par Bolloré, et je m'étais rendu compte qu'on était extrêmement nombreux. Il y avait le site Bastama, il y avait Radio France, il y avait Mediapart, il y avait les Inrock. Et ce qui était assez étonnant, c'était de voir que toutes les personnes qui étaient attaquées, quasiment toutes, avaient travaillé sur l'Afrique. Il y avait beaucoup de papiers très critiques sur Vincent Bolloré, notamment sur sa gestion des médias. Ces journalistes-là n'étaient jamais attaqués. C'est vrai que le dénominateur commun entre toutes les personnes attaquées par Vincent Bolloré, c'est qu'en général, elles ont travaillé sur ces affaires africaines.
Et pour vous donner une idée de la manière dont il fonctionne, encore aujourd'hui, certains journalistes qui ont signé un accord pour quitter son groupe ont été attaqués pour non-respect de leur clause de confidentialité.
Oui, il lui est même d'ailleurs arrivé de poursuivre des non-journalistes.
Comme Thierry Lamiro, un enseignant à la retraite, qui avait relayé sur son blog une enquête du site Bastamag sur l'accaparement des terres en Afrique et qui mettait en cause le groupe Bolloré. Il ne comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi c'est tombé sur lui.
Mon blog, il a entre guillemets que 5000 visites par jour. Et puis mon compte Twitter, j'ai 1200 abonnés. Mais ce n'est pas non plus les millions qu'on rencontre chez d'autres. En tant que, passez-moi l'expression, plouc citoyen, j'ai dépensé 10 000 euros pour payer mon avocate. J'ai perdu 10 000 euros alors que j'ai gagné 3 fois, quoi.
Ah, et 10 000 euros, c'est effectivement pas rien. Mais pourquoi l'Afrique est un sujet aussi sensible pour Vincent Bolloré ?
Eh bien parce que c'est là que s'est fait l'essentiel de sa fortune, dans le transport et la logistique, avec des compagnies maritimes et des réseaux de chemins de fer qui vont lui permettre de gérer une quarantaine de ports en Afrique.
Oui, ça a fait sa fortune, mais en même temps, c'est son talon d'Achille.
Et oui, parce que la société Bolloré SE a été notamment condamnée à une amende de 12 millions d'euros dans une affaire de corruption l'an dernier. Et lui-même, Vincent Bolloré, est menacé d'être renvoyé devant un tribunal correctionnel. En tout cas, aujourd'hui, il est sur le point de se séparer de ses activités africaines au profit du groupe italien MSC, une vente qui pourrait lui rapporter quand même près de 6 milliards d'euros.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, entrons maintenant dans le détail de ce qui constitue l'empire médiatique de Vincent Bolloré, qui est notre sujet aujourd'hui, Anne-Laure Barral. Et on va commencer par ses acquisitions les plus récentes.
Oui, il est en train de mettre la main sur les titres du groupe Lagardère, comme Europe 1, mais aussi le Journal du Dimanche et le magazine Paris Match. À Europe 1, ça fait d'ailleurs un moment qu'on a expliqué aux salariés qui était désormais leur vrai patron, comme le raconte Olivier Samin, ex-responsable du syndicat SNJ à Europe 1.
Le 11 mai 2021, il y a une réunion dans les locaux d'Europe 1, une réunion à laquelle sont invités l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et la direction dit, d'une certaine façon, vous êtes déjà des salariés de Vincent Bolloré. Alors que jusqu'à présent, la direction d'Europe 1, essayait de nous faire comprendre que les rumeurs qui circulaient n'étaient que des rumeurs et que nous n'avions rien à craindre de particulier. Mais beaucoup de journalistes ont choisi de partir parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'arrimage d'Europe 1 avec la chaîne d'information CNews, qui est en fait plus une chaîne d'opinion d'ailleurs qu'une chaîne d'information.
Oui, une chaîne d'opinion. Maintenant, à CNews, on conteste cette vision des choses.
Oui, on explique qu'aux yeux de l'ARCOM, l'ex-CSA, c'est bien une chaîne d'information qui organise des débats où toutes les opinions s'expriment. Mais pour Alexis Lévrier, maître de conférence à l'université de Reims et qui a participé à plus d'une soixantaine de plateaux sur cette chaîne, ce qu'elle cherche avant tout, c'est la polémique.
Là où j'ai compris que c'était devenu impossible d'y aller et que c'était même un piège, c'est quand j'ai vu que en fait vous êtes seul et puis trois ou quatre figures de l'extrême droite politique ou médiatique. C'est très souvent ça. Les plateaux sont tellement déséquilibrés et les choix des sujets, que souvent vous n'apprenez que dans le taxi qui vous amène vers l'émission, sont tellement polarisés que vous ne pouvez plus produire un discours différent.
Et c'est cette approche polarisée de l'information qui inquiète certains salariés d'Europe 1.
En effet, d'ailleurs, une centaine de personnes ont déjà quitté Europe 1, certains en faisant jouer leur clause de conscience, une clause qui permet de partir avec des indemnités. Depuis, des animateurs de CNews en ont remplacé certains, on a aussi réduit les journaux, les correspondances à l'étranger, et des tranches communes à Europe 1 et à CNews sont maintenant diffusées à l'antenne.
Oui, des changements de contenu ou de personnes d'ailleurs, on en retrouve aussi dans d'autres titres du groupe.
C'est vrai. Par exemple, la rédaction du Journal du Dimanche a changé deux fois de patron en trois mois. Hervé Gattegno a été renvoyé en octobre, remplacé par Jérôme Bellet, qui vient à son tour d'être remplacé par Jérôme Béglé. Une nomination surprise à laquelle toute la rédaction du journal a réagi par voie de communiqué. Nous en avons fait lire un extrait.
La nomination de Jérôme Béglé, chroniqueur régulier de CNews, nous fait craindre un rapprochement avec la chaîne du groupe Bolloré, média d'opinion qui se revendique comme tel. La rédaction du JDD s'y oppose. Dans un contexte de reprise en main brutale d'Europe 1, nous rappelons notre vigilance quant à la ligne éditoriale du JDD et notre attachement à son indépendance.
Mais la ligne est vraiment en train de changer au JDD ?
Au JDD, pas pour l'instant, non. Mais à Paris Match, il y a eu plusieurs alertes. D'abord, la une sur Éric Zemmour en septembre. Ensuite, l'arrivée de Patrick Mahé, ex-militant du mouvement nationaliste Occident, comme directeur de la rédaction. Et un article sur le livre du frère de Vincent Bolloré sur Dieu. Là aussi, certains journalistes envisagent de faire jouer leur clause de conscience si les choses allaient trop loin.
Alors ça, c'est pour les médias d'information, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. Maintenant, Anne-Laure, Vincent Bolloré va aussi mettre la main sur un géant de l'édition.
Oui, le groupe Hachette, propriété de Lagardère et numéro 3 mondial du secteur. Vincent Bolloré possédait déjà Editis et avec la fusion des deux, va naître un mastodonte, explique Martine Prosper, secrétaire générale CFDT Livre Édition.
Hachette et Editis, c'est 5000 salariés à eux deux. 5000 salariés, c'est 40% des salariés de la branche. Donc, quand vous avez un ensemble qui pèse 40% des salariés de la branche, vous êtes en position dominante sur les termes du dialogue social, sur le type d'accord que vous pouvez conclure. Et surtout, ce qui est très embêtant, c'est que vous paralysez une certaine forme de mobilité des compétences. Puis, dans l'édition, on n'a pas la clause des journalistes qui permet de dire « Ah ben moi, je ne veux pas travailler pour M. Bolloré ». Donc ça, moi, ça me préoccupe très fortement.
Oui, ça la préoccupe, mais concrètement, Anne-Laure, le secteur de l'édition que contrôlera Bolloré, ça représentera quoi ?
Le groupe Edith Hachette, comme certains l'appellent déjà, représentera près de 70% du scolaire, plus de la moitié des livres de poche, mais aussi les dictionnaires Larousse et Le Petit Robert, et une centaine de maisons d'édition comme Plon, La Découverte, mais aussi Grasset, Fayard ou Jean-Claude Lattès.
Ah oui, autrement dit, une grande partie du marché.
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 3000 maisons d'édition en France, mais le groupe de Vincent Bolloré aura le quasi-monopole de la distribution des livres dans les points de vente, et c'est ce qui inquiète le plus Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat National de l'Édition.
À partir du moment où l'accès au marché passe par un acteur unique, et notamment sur tous les petits points de vente, où on est proche de 100%, vous avez forcément des décisions qui sont prises entre les éditeurs qui appartiennent à cet acteur et ceux qui n'appartiennent pas à cet acteur. Déjà, on a un risque d'augmenter le côté best-sellerisation de l'édition, puis de voir un certain nombre d'ouvrages qui n'auraient pas accès à ces petits points de vente parce que peut-être pas grand public.
Ouais, donc lui, il redoute qu'on privilégie certains auteurs qui vendent bien au détriment d'autres moins vendeurs.
Et cette crainte a été confortée, par exemple, avec le contrat qu'a passé la nouvelle maison d'auto-édition d'Éric Zemmour avec le groupe Editis de Vincent Bolloré pour la distribution de ses livres, dont le dernier s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires.
Oui, mais au-delà de ces chiffres, ce qu'on reproche à Vincent Bolloré, Anne-Laure, c'est surtout de faire la promotion des idées d'Éric Zemmour. Alors lui, Vincent Bolloré, il assume ça ?
Non, pas du tout. Il a même ironisé devant les sénateurs le 19 janvier en laissant entendre qu'il pourrait même être aux antipodes des idées du candidat d'extrême droite.
On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste, woke. Vous avez vu la polémique sur IEL. IEL, c'est le Petit Robert. Le Petit Robert, c'est Editis. Editis, c'est Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré est déconstructionniste. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews. Je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions. Voilà, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
Alors on va préciser ce lapsus, hein. Éric Zemmour n'est pas président mais simplement candidat à l'élection présidentielle.
En tout cas, pas pour le moment. Bon, maintenant, au-delà de ça, Anne-Laure, Editis privilégie vraiment des livres de la mouvance Bolloré ?
Alors on peut dire qu'il a très bien distribué le livre de son frère, Michel-Yves Bolloré, sur Dieu, la science, l'épreuve, qui a atteint plus de 100 000 exemplaires en 3 mois, avec des articles dans Match, hein, on l'a dit, des passages sur CNews, sur Europe 1. Alors j'ai appelé Michel-Yves Bolloré qui m'a assuré que son frère n'y était pour rien.
Oui, ce qui est possible du reste, même si ça peut quand même aider. Maintenant, certains auteurs pointent un autre danger.
Oui, l'autre danger, c'est celui de l'autocensure. Écoutez, Nicolas Vescovacci, co-auteur d'un livre d'enquête sur Vincent Bolloré, il a le sentiment qu'elle est déjà en train de s'installer dans le milieu de l'édition.
On a publié notre livre « Vincent Tout-Puissant » en janvier 2018. Il s'est passé tellement de choses depuis 2018... qu'on a essayé de faire une seconde version du bouquin chez Jean-Claude Lattès, notre éditeur. La réponse, ça a été tout de suite un non. Un non clair et ferme. Pourquoi ? Parce que nous avions déjà beaucoup d'ennuis judiciaires avec les intérêts de M. Bolloré et avec Vivendi. Donc il était hors de question pour Jean-Claude Lattès de poursuivre l'aventure. Impossible de publier un bouquin de la sorte dans le giron des éditions contrôlées par Hachette ou par Editis.
Alors je précise que chez Lattès, on voit les choses un peu différemment. On affirme que le premier livre ne s'est pas suffisamment vendu pour en envisager un second pour l'instant.
Oui, mais la question qui se pose derrière ça, Anne-Laure, elle est plus large. C'est est-ce qu'on ne risque pas de faire, à travers cet empire médiatique, finalement, la promotion d'une certaine vision de la société ?
C'est une bonne question. Et par exemple, Vincent Bolloré ne cache pas qu'il est un fervent catholique. Et dès qu'il se lance dans la télé, il installe des programmes religieux sur Direct 8, sur CNews et même sur C8. Raphaël Garrigos, auteur du livre L'Empire sur Vincent Bolloré, a relevé la diffusion d'un film très discutable sur l'avortement.
C'est un film de cinéma qui est sorti aux États-Unis, qui est un brûlot contre l'avortement, avec une scène notamment terrible où on voit un avortement avec un fœtus en train de faire des gestes comme s'il se débattait, qui sont scientifiquement et médicalement totalement absurdes, et qui a été diffusé sur C8 juste après le 15 août d'ailleurs. Il y a eu des choses très spectaculaires, la diffusion de la messe du 15 août sur CNews, sur C8, la diffusion de la messe de Noël, de la Toussaint. Alors après, il y a quand même un précédent, c'est sur Direct 8, la chaîne que Vincent Bolloré a lancée en 2005 sur la TNT, avec une émission qui était là d'emblée, qui s'appelait Dieu merci, où on retrouve les mêmes personnes qu'on retrouve désormais sur CNews.
Sur CNews, ouais, mais cette crainte d'influencer les esprits à travers un groupe ultra puissant, elle concerne aussi d'autres secteurs que la télé.
Oui, on en parle moins, mais Vincent Bolloré a aussi investi dans les jeux vidéo avec Gameloft. Alors ce n'est pas la pépite de son groupe, mais les jeux vidéo peuvent être aussi un vecteur important de messages politiques. Écoutez cet exemple que nous donne Oscar Lemaire du site Ludostri, spécialiste des jeux vidéo.
Un des plus grands exemples en la matière, c'est le jeu Papers, Please, qui est un jeu où le principe consiste à incarner dans un pays fictif, mais un peu ambiance Europe de l'Est, quelqu'un qui a pour rôle de vérifier les papiers des gens qui rentrent dans le pays. Et donc le jeu consiste à accepter ou refuser les gens selon que leurs papiers soient en règle ou non. Il y a énormément de débats en fait, au sein des communautés de joueurs.
Ouais, des débats parce que ce jeu véhicule, on le comprend, a une certaine idée de ce que peut ou de ce que devrait être aux yeux de certains la fermeture des frontières. Maintenant, cette crainte d'influencer les esprits, on la retrouve aussi dans un autre secteur très stratégique.
Oui, dans le secteur de l'édition scolaire. Alors les éditeurs scolaires suivent ce que décide le Conseil supérieur des programmes, organe du ministère de l'Éducation nationale. Mais ils peuvent aussi accompagner ou accentuer une tendance, comme le rappelle Corinne Abinsour, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13.
Que feront des éditeurs scolaires si les programmes deviennent problématiques ? Avant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, le sentiment anti-allemand était très présent dans les manuels. Donc bien sûr que les manuels sont une caisse de résonance. Si on les regarde dans le temps long, ils sont le reflet de conceptions éducatives, mais ils sont aussi le reflet de conceptions politiques.
Et donc si on met tout ça bout à bout, on a du coup un groupe qui pourrait effectivement disposer de toute une batterie d'instruments qui pourraient être autant d'outils d'influence. Maintenant, cette concentration à laquelle on assiste et qu'on vient de décrire, Anne-Laure, elle est légale ?
Alors il y a bien une loi antitrust qui date de 1986, mais elle n'interdit pas par exemple la concentration de magazines avec des chaînes de télé et de radio.
Ah oui, donc on peut tout à fait cumuler.
En tout cas, grossir, c'est aussi ce que veut Martin Bouygues, qui veut fusionner TF1 et M6. Et Vincent Bolloré a d'ailleurs bien insisté devant les sénateurs pour dire que lui aussi est minuscule face aux GAFAM, ce qui pour Nicolas Gary, directeur de la publication d'actualité, est plutôt vrai.
Dans l'industrie du livre, on a un opérateur qui a acquis une puissance terrifiante qui s'appelle Amazon et qui fait peur à tout le monde parce qu'il parvient à imposer des conditions financières et transactionnelles dont personne ne veut. Amazon a une puissance qui nécessite aujourd'hui d'avoir un groupe pour pouvoir s'opposer à Amazon. Aux États-Unis, il y a la même chose qui est en train de se dérouler. L'énorme consortium Penguin Random House, qui possède le plus grand nombre de prix Nobel de littérature publiés, a décidé de racheter Simon & Schuster. Le ministère de la Justice américain s'y oppose. Penguin Random House dit « Mais attendez, si vous nous empêchez de faire ça, Amazon va nous détruire. » Et il est certain qu'aux États-Unis, les problématiques de l'édition sont 100 fois pires que celles qu'on peut rencontrer en France.
Mais ça veut dire qu'il faudrait accepter une hyper-concentration en France, sous prétexte qu'il faut faire le poids face aux géants du numérique américains notamment.
Eh bien, c'est ce que disent ces acteurs, alors que d'autres estiment qu'au contraire, on risque de tuer l'exception culturelle française. On y verra plus clair le 17 février, quand on connaîtra les contours du nouveau groupe médiatique de Vincent Bolloré. Mais certains éditeurs et libraires se préparent déjà à déposer des recours devant l'autorité de la concurrence à Bruxelles pour ne pas lui laisser trop de place.
À suivre donc, et on précisera à Anne-Laure qu'on a proposé à l'équipe de Vincent Bolloré qu'il s'exprime, mais elle n'a pas donné suite à notre invitation. Bien, merci Anne-Laure Barral. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Mais Secret d'info, ça continue. Qui sont les ex-agents de la DGSE qui ont vendu des secrets d'État aux Chinois? On voit ça dans quelques instants. Presque enfantin, un peu d'air frais dans ce monde de brut, c'était Lone, le nouveau single de la néo-zélandaise Aldous Harding, dont on attend l'album pour mars prochain.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Antoine Isambard, bonjour.
Bonjour.
Avec Franck Renaud, vous publiez la semaine prochaine « Trahison à la DGSE ». C'est un livre qui revient notamment sur le parcours de deux agents de la DGSE, deux ex-agents, qui ont été condamnés en juillet 2020 pour avoir vendu des informations sensibles au service de renseignement chinois. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter le premier de ces agents qui s'appelle, enfin c'est un certain, on va l'appeler Henri. C'est un fils de policier, c'est un fils de militaire. Et vous expliquez qu'il a un tempérament bien trempé et ça dit des choses de ce qui va se passer après.
Oui, c'est quelqu'un qui a fait Saint-Cyr, assez fort en gueule, qui aime la littérature, le cinéma, un esprit assez libre. En 82, il intègre la DGSE, il va rester une dizaine d'années boulevard Mortier en tant qu'analyste. Après, il va partir en Afrique, au Sénégal, il va revenir ensuite à la DGSE, et c'est là, en 96, après qu'il part en Chine, où il va être le chef de poste, l'équivalent de l'ambassadeur de la DGSE dans le pays.
C'est ça, il est en poste à Pékin. Alors, il faut dire que jusqu'ici, la Chine n'était pas forcément une priorité pour les services de renseignement français, mais que lui, il arrive au moment où la pression monte, justement, parce qu'on sent bien que la Chine devient incontournable dans ce domaine-là, et ça va provoquer des tensions entre Henri et la DGSE.
Oui, disons que c'est vrai que la DGSE et le pouvoir de l'époque a envie d'avoir des informations sur ce qui se passe à Pékin. Et en même temps, Henri est quelqu'un qui est un vrai, on dirait, un agent à l'ancienne quelque part, qui n'est pas forcément l'homme le plus adapté, l'homme idoine, pour collecter du renseignement financier très précis. Et donc voilà, il y a quelques heurts, ou en tout cas divergences de point de vue entre l'espion basé en Chine et Boulevard Mortier.
Il y a un témoin qui va le voir, qui raconte qu'il n'allait, je vous cite, hein, il n'allait pas très bien. Il donnait l'impression de quelqu'un plongé dans la solitude. Et alors là, il va commettre ce qu'on peut appeler un faux pas. Il va se rapprocher d'une Chinoise de 32 ans qui est une interprète à l'ambassade de France. Et c'est pas n'importe qui, cette Chinoise.
Oui, exactement. Donc, elle est surnommée Justine, son prénom français. Elle a 32 ans. Et puis, elle, assez rapidement, Henri, qui avait un niveau en mandarin qui était quand même plutôt bon, mais qui voulait perfectionner son niveau, prend des cours avec elle. Et donc, au bout de quelques mois, finalement, une relation amoureuse naît entre les deux. Et donc, ça fait jaser au sein de l'ambassade, mais qui met quand même plusieurs mois, puisque véritablement, au début de l'année 98, quand l'ambassadeur en poste, Pierre Morel, acquiert la certitude qu'il y a une relation entre les deux. Ça le met dans une colère noire. Il prévient évidemment le Quai d'Orsay, la DGSE. Henri est rappelé illico, on appelle ça un vol bleu dans le jargon, c'est-à-dire qu'il quitte tout à faire cessante son poste et il va être débriefé après pendant de longues semaines à la DGSE.
Ouais, parce qu'on s'inquiète, on se demande s'il n'a pas confié sur l'oreiller un certain nombre de renseignements à sa partenaire. Et du coup, on va démanteler en fait le réseau des clandés, des clandestins, comme on les appelle, de la DGSE en Chine.
Oui, par mesure de sécurité, tout le dispositif de la DGSE en Chine est effectivement démantelé. Alors, normalement, le chef de poste n'a pas connaissance de l'identité des clandestins du service dans le pays dans lequel il officie, pour une raison assez simple et de sécurité, de cloisonnement. Mais là, par rapport aux précédentes fonctions d'Henri à la DGSE, il avait mené des opérations en lien avec les clandestins, et donc il y avait une véritable préoccupation à ce niveau-là. Et puis après, il chapeautait finalement aussi le réseau des honorables correspondants du service en Chine qui pouvaient être compromis s'il avait déjà donné leur nom au service chinois. Donc il y avait effectivement une urgence de la DGSE à couper un peu court tous les liens entre elle et son agent et à préserver finalement ce tissu implanté depuis de longues années en Chine.
Et puis donc, résultat de cette crise, il est mis au placard et là ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il cultive son ressentiment et il va finir par quitter la DGSE et il va revoir son amie chinoise.
Oui, effectivement. Donc, il rentre au printemps 98 et au bout de quelques mois, il repart en Chine avec la fameuse Justine et il s'installe en Chine. Il mène des affaires, notamment d'export, d'import-export.
Enfin, qui marche plus ou moins bien.
Qui marche plus ou moins bien et effectivement très rapidement, notamment via Justine qui le met en relation avec des agents du Guanbu, qui est le plus important service de renseignement chinois, bah, il commence à donner des informations sur ce qu'est la DGSE, comment elle fonctionne.
Il est recruté par les Chinois.
Effectivement, oui, à ce moment-là, son recrutement commence avec de l'argent qu'il commence à percevoir, avec des avantages en nature, et effectivement, ça commence très rapidement.
Et ça continue parce qu'il a des problèmes financiers, et du coup, il devient vulnérable, et les services lui en demandent plus, et c'est là qu'intervient la deuxième personne qui a été récemment condamnée, un certain Pierre-Marie. Il va aller recruter, chercher ce Pierre-Marie qu'il connaissait d'ailleurs déjà par ailleurs.
Oui, en fait, au bout de quelques années, Henri a plus grand-chose à transmettre et n'a plus beaucoup d'informations de première main à donner au Guanbu. Et il se souvient qu'au milieu des années 90, il a fréquenté quelqu'un qui était un anticommuniste fervent, catholique, versaillais, et qui pouvait avoir effectivement des besoins d'argent. Donc c'est par le biais d'Henri que cette personne-là, qui là, quand Henri le contacte au début des années 2000, est un petit peu en roue libre, un petit peu déclassé, il est aux archives, et donc c'est vrai qu'il a aussi un ressentiment qu'il nourrit vis-à-vis de la DGSE, et qui va permettre effectivement son recrutement par le Guanbu.
Oui, sachant qu'on va l'inviter dans des conditions assez luxueuses, hein, il est invité aux Seychelles, à l'île Maurice, au Sri Lanka, on lui remet des valises de billets en liquide, enfin tout d'un coup il a une vie opulente, et donc il remet des documents issus des archives de la DGSE à Henri.
Oui, exactement.
Au Chinois,
alors au début par le truchement d'Henri, où les deux hommes se voient au début en terrain neutre avec un agent chinois en Thaïlande, et puis également en France, dans les environs de Versailles, Pierre-Marie transmet quelques documents à Henri. Mais c'est vrai que l'enquête judiciaire qui a amené le procès a montré que Pierre-Marie avait transféré une dizaine de documents classifiés aux Chinois.
Vraiment sensibles ou pas ?
Sensible dans le sens où ils illustraient la réflexion de la France sur ce qui pouvait se passer à l'époque en Crimée, sur l'Afrique, sur... Donc ils sont pas forcément, c'était pas les codes nucléaires, mais je dirais que le plus, et ce qui ressort un petit
ni
peu...
Ni les noms des agents français à l'étranger.
Ça a été c'est une interrogation, et c'est probablement ce qui est le plus gênant, c'est-à-dire que au-delà de ces documents-là, les deux hommes qui sont passés vraiment par le contre-espionnage, qui connaissent les entrailles de la DGSE, le fonctionnement, comment l'information est cloisonnée, ont véritablement donné aux Chinois une connaissance quand même assez fine de ce qu'ils pouvaient connaître de la maison. Et donc c'était un avantage quand même que la Chine pouvait avoir sur la France. C'était ça le plus gênant.
Et puis les valises de billets, ça finit par se voir. Donc il y aura un signalement de Tracfin. L'enquête remonte jusqu'à la DGSE. Donc ils seront convoqués à la DGSE et ça se terminera donc par cette enquête judiciaire. Après quand même beaucoup de débats en interne. Fallait-il les poursuivre, pas les poursuivre, laver le linge sale en famille pour pas que ça se sache, ou au contraire que l'affaire sorte?
Oui, effectivement, la culture des services français, mais pas que, est plutôt de laver le linge sale en famille. Et en fait, au milieu des années 2010, quand Bernard Bajolet est à la DGSE, sous le quinquennat Hollande, il y a quand même beaucoup d'agressivité des services russes, des services chinois, israéliens également, et en interne, on se dit, voilà, il faudrait quand même sanctionner cette agressivité-là. On a des agents aussi qui ont été un petit peu légers, qui ont cédé à la tentation financière ou autre. Et donc, c'est important d'envoyer un signal, de montrer que on ne laisse pas faire et que ceux qui fauteront seront condamnés. Et donc, c'est pour ça qu'à la fois, il y a ces deux agents-là, et puis un mois plus tard, après leur condamnation, on aura un lieutenant-colonel français basé à l'OTAN qui sera également poursuivi pour trahison.
On l'avait raconté dans une émission d'ailleurs de Secret d'Info il y a quelques temps. Ça se trouve dans votre livre. Antoine Isambard, alors merci. Je rappelle d'ailleurs que ce livre s'intitule « Trahison à la DGSE » et je précise qu'il est édité chez Stock. Secret d'Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Dibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Florian Dorimini et Jérémy Kaufmann. Je vous souhaite un excellent week-end.